Ceci est un podcast à date.
Soyez la bienvenue dans cette vidéo de Tadat. Nous sommes le 5 juin 2020. Nous allons parler avec M. José Barroso Tostes Neto, secrétaire spécial de la Recette fédérale du Brésil. Il va nous raconter son expérience sur l'évaluation Tadat et sur les défis que la Recette fédérale du Brésil relève à cause de la crise de la COVID-19. Bienvenue, Monsieur le secrétaire.
Bonjour Valéria.
Nous savons qu'en janvier 2020, la Recette fédérale du Brésil a fait une évaluation Tadat. Qu'avez-vous appris, vous et votre équipe?
Après avoir occupé la direction de la Recette fédérale en octobre 2019, j'avais pour objectif de faire l'évaluation Tadat, que je connaissais depuis le début. Je savais qu'il était important de faire un diagnostic précis, ce que le Tadat peut faire. J'ai fait une demande et le secrétariat m'a tout de suite reçu. Et en janvier, nous avons pu faire cette évaluation. Quand nous avons fait l'évaluation, toute l'équipe a vu que c'était l'occasion de faire un diagnostic objectif et impartial et surtout d'avoir des références pour notre institution fiscale et particulièrement la possibilité d'identifier les points forts et faibles de notre organisation. Après avoir fait l'évaluation, les résultats ont largement dépassé nos attentes du début. Et ce, bien au-delà de ce que nous attendions de l'évaluation Tadat. Le processus dans son ensemble comprend plus de 3 mois de travail et une dizaine de membres des équipes avec une grande participation des responsables de chaque processus de travail, des équipes de plusieurs domaines de la recette fédérale qui travaillent dans les 9 domaines de performance de l'outil. Ces équipes avaient une participation très active en ce qui concerne les définitions préliminaires avec l'équipe chargée de l'évaluation. Nous formons un contingent de 40 fonctionnaires pour l'outil et sa méthodologie. Il y a eu un énorme travail fait sur une étude préalable portant sur les preuves et même une simulation d'évaluation pour nous préparer tous à son utilisation ultérieure. Tous ces efforts préalables pour faire l'évaluation ont créé une synergie très positive dans notre organisation par les effets réels que nous ressentions même après la fin de l'évaluation. Nous avons constaté l'importance d'avoir l'humilité de prendre le temps de réfléchir sur nos problèmes, de les ressentir d'une façon plus ouverte et avec une démarche plus active, pour voir ce que l'on peut améliorer et surtout chercher des références, non seulement pour recevoir de l'aide, mais aussi pour tisser un partenariat avec d'autres institutions qui pourraient partager des expériences avec nous. Après l'évaluation, il a été clair que nous avions maintes défis importants à relever à partir du rapport d'évaluation de la performance. Pourtant, il était clair que nous étions optimistes, nous tous, et que nous avions en main une excellente référence pour soutenir nos actions, pour encadrer notre plan stratégique et particulièrement plusieurs réformes que nous souhaitions entreprendre les années prochaines. En étant sûr que tout serait organisé en ayant pour référence les bonnes pratiques de gestion fiscale internationale. Pour conclure, je peux dire que cette évaluation Tadat nous a fait progresser et a été instructive pour tous, à la fois sur le plan personnel, pour tous nos fonctionnaires et nos équipes, et sur le plan institutionnel. Nous avons tous beaucoup évolué sur l'évaluation Tadat.
Monsieur le secrétaire, pouvez-vous nous dire comment la COVID-19 a changé vos activités quotidiennes? Qu'est-ce qui est fait pour assurer la continuité des affaires de la recette fédérale, y compris les mesures prises pour aider les contribuables à remplir leurs obligations?
Sans aucun doute, cette pandémie provoquée par la COVID-19 a fortement modifié notre travail, notre organisation et nos vies. En fin de compte, Nous vivions une expérience jamais vécue à cause d'une paralysie totale. Cependant, nous pouvons sous-diviser nos actions en trois volets. Le premier volet du début de la pandémie, celle de la pression du début sur le besoin de prendre des mesures rapides et urgentes. Le deuxième volet, après le début, avec la pandémie déjà installée et avec toutes ses conséquences en termes d'arrêt des activités économiques et un tas de mesures de restriction pour la prise de contact, nous avons dû adopter beaucoup d'actions plus larges pour nous adapter et respecter ce nouveau cadre. Le troisième volet, celui que nous allons vivre maintenant, c'est l'espoir qu'avec la diminution des effets et surtout avec l'arrêt de tout ce processus de contamination et l'éventuel retour à la normale et la nécessité d'un plan d'action pour la période postérieure à la crise. Dans un premier temps, nous avons subi les impacts d'une façon très rapide à cause de l'arrivée de la pandémie. Nous avons dû privilégier des mesures d'urgence pour sauvegarder la santé, les fonctionnaires et les contribuables, avec une attention spéciale vis-à-vis des groupes qui font partie des groupes à risque, avec une recommandation pour tous, tous ceux qui travaillent sur place, en raison de quelques activités essentielles qui ont dû être maintenues comme des activités critiques dont l'objectif était de sauvegarder l'intégrité physique et d'éviter toute possibilité de contagion. Nous avons pris des mesures d'urgence pour le télétravail, l'organisation d'une façon générale, en offrant des équipements et des moyens, des systèmes et des logiciels pour permettre l'intégration et le télétravail. Ces mesures comprennent un total de 13,6 000 fonctionnaires qui font leur travail chez eux, ce qui correspond à presque 70% de nos fonctionnaires. De même, il y a eu la nécessité d'accomplir un processus de décision assorti d'une instance de gouvernance institutionnelle, laquelle est composée d'un département stratégique de notre institution, une espèce de bureau de la crise, qui a fini par travailler en régime d'urgence en permanence, suivant 24 heures sur 24 les informations, identifiant les situations de risque et d'urgence, et créant des moyens et des canaux précis de communication pour cadrer tout le monde. Ensuite, sur la situation en tant que telle, et surtout en étant sûr que cela allait durer un certain temps, nous avons pris des mesures très rapides pour protéger les contribuables et surtout assurer des moyens et des alternatives pour réduire les effets de la pandémie sur l'action économique et sur la pandémie et le rapport des contribuables avec la gestion fiscale. Tout d'abord, concernant les personnes physiques, les contribuables individuels, où l'on cherche à créer des alternatives virtuelles pour le service à distance, pour que le contribuable ne soit pas obligé de se présenter personnellement à nos services. Nous avons fait un énorme travail de réorganisation sur les informations du registre de ces personnes physiques pour leur permettre de toucher l'aide d'urgence du gouvernement. Une condition pour toucher cette aide d'urgence était d'avoir un registre fiscal à jour. Il y a eu des alternatives pour recevoir par voie électronique des documents afin de faire les mises à jour. Nous avons proposé également le report du délai de remise des déclarations de revenus pour les personnes physiques de 3 mois, outre la création d'une application pour les smartphones et les tablettes, appelée CPF Digital. C'est la façon interactive pour que le contribuable ait son identification fiscale numérique sur ses équipements. Nous avons aussi pris des mesures pour soutenir les PME en ce qui concerne le report du délai de paiement de tous les impôts sur 6 mois, le report du délai pour présenter les déclarations et le prolongement de la date des paiements par tranche. Nous avons également pris des mesures pour reporter la date de paiement des impôts dans tous les domaines de l'économie des principales contributions pour la période de mars, avril et mai, où ce paiement est reporté au deuxième semestre. Outre le prolongement ou la suspension des délais de la remise des déclarations, la suspension de toutes les procédures et les mandats de comparution, les notifications et l'envoi des factures, il y a surtout eu aussi le report des obligations secondaires. Nous avons appliqué des allègements fiscaux en exemptant des impôts sur les produits pharmaceutiques, d'hygiène, nécessaires à la prévention, la protection et le traitement de la COVID-19, ainsi que, au sein de la zone douanière, la création d'un suivi rapide pour libérer le plus vite possible des produits nécessaires au traitement de la pandémie. Bien sûr, Toute crise crée des opportunités. Et là, nous avons également commencé à exploiter plus efficacement les riches informations de nos bases de données sur les factures électroniques et nous avons créé un bulletin à partir de ces informations, qui sont les registres des ventes venant des factures électroniques, ce qui nous a permis de suivre 24 heures sur 24 le flux des transactions enregistrées sur les factures électroniques en appuyant la prise de décision sur les impacts de l'arrêt de chacune des activités économiques. Dans un troisième temps, celui plus exactement de la préparation post-crise, nous sommes en train de travailler sur un plan de gestion post-crise. Par ailleurs, ce plan a été fait avec une large participation parce que ces outils d'intégration virtuelle nous permettent de faire des réunions avec un grand nombre de participants. Nous avons déjà eu des réunions d'évaluation stratégique avec plus de 600 fonctionnaires connectés à distance. Et avec ce plan, nous allons chercher à organiser et à privilégier les actions de la post-crise en élargissant le travail à distance avec un support accru pour l'exécution des mesures garantissant la sécurité des activités qui doivent se faire sur place, avec des adaptations dans plusieurs domaines, de sorte à assurer un contact physique sans contamination, l'élargissement du service client et des services numériques et deux grands défis, des actions axées sur les principaux secteurs affectés par la crise et le redressement des cotisations dans le cadre d'une crise économique due à cette paralysie. Pour le troisième volet, nous devons vraiment innover afin de relever le défi de la réorganisation des cotisations et surtout rétablir l'équilibre fiscal qui sera certainement affecté par un volume de dépenses très large et nécessaire à la protection de la population pendant la période de crise. Et sur ce troisième volet, nous allons entamer la préparation de notre plan stratégique pour la période 2021-2023, où la principale motivation est le rapport d'évaluation Tadat. Il est clair que dans ce travail, nous allons tenir compte de l'expérience que nous avons vécue avec la COVID-19 et qui nous a enseigné beaucoup de choses.
Vous avez souligné quelques défis. Nous aimerions savoir quels ont été les principaux défis que vous avez affrontés jusqu'à présent et comment vous les avez surmontés.
Je soulignerai quelques défis en plus de ceux dont j'ai parlé à la question précédente. Tout d'abord, la nécessité majeure de prendre et de mettre en œuvre des décisions dans les plus brefs délais. Cette crise a montré à quel point la gestion fiscale est importante pour le maintien de l'État et à quel point ces actions ont un impact sur la société dans différents domaines. Une fois, nous avons clairement vu que notre action pouvait être décisive pour la survie des personnes, des familles et des entreprises, mais aussi pour garantir l'action de l'État d'une façon générale. En ce sens, l'action rapide a été un point critique qui marque un grand défi dans nos vies en ce moment. Autre défi très visible dans cette expérience, c'était la nécessité d'une démarche coordonnée et synergique, en cherchant des synergies dans plusieurs autres institutions du gouvernement. En effet, une interaction avec les autres institutions du ministère de l'Économie, avec les autres domaines du gouvernement fédéral, avec les gouvernements sous-nationaux, pour avancer et concrétiser une série de processus nécessaires à la gestion de cette crise. Un troisième défi important, celui de la diversité des responsabilités à la charge de la recette fédérale, qui est une institution fiscale et douanière, et une dimension de l'organisation. Quelques chiffres, juste à titre d'exemple, sur l'ampleur de cette période de crise, nous avons dû procéder sous toutes ses formes à la régularisation de 12 millions de contribuables, personnes physiques, qui devaient régulariser leur enregistrement fiscal pour toucher les aides d'urgence. Cela a été fait au prix d'efforts colossaux, sur deux équipes de travail pour tous les fonctionnaires, par le travail à distance pour régulariser ces CPF, et c'était une demande d'environ 500 000 CPF par mois, au mois de mars et d'avril. Un autre chiffre qui montre le gigantisme, c'est le programme créé pour le paiement à crédit, la nécessité de flux d'argent pour les PME, basé sur le pourcentage de leurs recettes déclarées, leurs revenus. Et la recette fédérale, suite à ces informations, des déclarations, a envoyé une lettre à plus de 15 millions de PME pour qu'elles puissent s'inscrire dans ce programme de crédit au sein des institutions financières. Nous avons dû augmenter nos services clients. Nous avons créé des alternatives, outre l'activité sur place, des conversations par chat, au centre d'information virtuelle, une caisse coopérative, un dossier électronique d'accueil, ces moyens permettant aux contribuables de trouver nos services à distance, ce qui nous a permis, sur 3 mois, de recevoir plus de 60 millions de demandes et d'enregistrer des accès. Il convient de souligner que tous ces défis finissent par créer des opportunités pour l'institution, et surtout la diffusion et l'usage des outils de la technologie, ce qui nous permet de suivre le travail à distance et de garder l'interaction et l'intégration des fonctionnaires à distance. C'était un point intéressant qu'il convenait de souligner. C'est toujours en cours, mais nous avons déjà des signes forts d'amélioration de la productivité de certains processus de travail qui se font à distance.
En raison des leçons apprises, quels conseils donnez-vous aux institutions fiscales du monde entier ?
Nous apprenons beaucoup avec la crise, et je pourrais vous en donner au moins 5. Tout d'abord, il n'y a rien de plus important que la vie humaine et la santé de chacun de nous et de notre société à part entière. Les personnes doivent être prioritaires, et tout ce qu'il faut faire pour préserver cela, on doit le faire. Deuxièmement, c'est la nécessité d'adopter une position ferme, et surtout en étant conscient de tous les risques qu'une telle situation engendre, parce que cette position ferme peut signifier la survie de tout un chacun. Troisièmement, c'est l'importance de la technologie. La technologie est notre grand allié pour rétablir les activités d'une façon continue et nous permettre de continuer à produire un service d'excellence aux contribuables. Par ailleurs, cette pandémie et la crise qui en découle vont certainement accélérer tout le processus de numérisation de l'économie numérique. La vitesse avec laquelle il se produit sera certainement beaucoup plus grande après la crise. Une autre leçon apprise est que nous devons être conscients de toutes nos activités critiques et chercher à les gérer de manière à garantir que les activités critiques continuent à se faire, quelle que soit la crise que nous devons affronter. Quelle que soit la crise, quel que soit le problème, on ne peut pas empêcher que les activités critiques se fassent. Pour conclure, il faut souligner la nécessité de renforcer les processus de gouvernance et de gestion parce que, plus que jamais, le processus de décision doit être rapide et doit être pris et mis en œuvre dans les plus brefs délais. Je crois que ce sont les principales leçons que nous tirons de cette crise.
Y a-t-il une quelconque réflexion que vous aimeriez partager sur l'expérience de la COVID-19 liée à la structure du TADAT ?
Oui, il a été important pour nous d'avoir été évalués dans une période très proche du début de la pandémie et nous avons reçu le rapport d'évaluation des performances et les commentaires sur nos points forts et faibles à temps pour les utiliser pendant cette pandémie. Pendant la période de la COVID-19, on a confirmé quelques points forts, quelques forteresses de notre institution, qui ont été identifiés par l'évaluation TADAT et qui ont été essentiels pour une réponse rapide à la crise. Je pourrais souligner par exemple le fait que nous avons déjà toutes les déclarations fiscales, les livres fiscaux et comptables nécessaires aux contrôles fiscaux en format électronique. Essentiel élément favorable avec la numérisation totale des documents fiscaux, mis à disposition par plusieurs canaux pour l'information et pour le service à distance des contribuables. Troisièmement, les efforts que nous entreprenons sur un processus déjà initié pour soutenir l'exécution volontaire et la réduction des coûts de conformité pour le contribuable. Je dirais que ces points forts sont clairs dans le diagnostic et ont été de grande importance pour les mesures que nous avons prises lors de la crise. De plus, le TADAT a présenté au sein de notre institution une référence très large et complète des principaux résultats qu'une institution fiscale doit remettre. Je dirais que les 9 domaines de résultats de la performance se sont révélés critiques lors de cette crise. Toutefois, j'aimerais souligner au moins 3 de ces 9 domaines de la performance, ou mieux, 4 de ces 9 domaines de la performance de l'outil, et qui ont une grande importance lors d'une gestion de crise. Tout d'abord, c'est exactement dans le domaine du résultat de la performance sur la gestion efficace des risques. On met l'accent sur l'identification et le suivi des risques portant sur le scénario de la crise et la maturité, la construction d'une notion sur un plan de continuité des affaires. Cela a donc été très clair maintenant que nous vivons cette crise, que l'institution fiscale doit véritablement cartographier tous ses risques institutionnels et ses actions pour savoir à tout moment dans quelle direction il faut aller. Une relation comme celle-ci est donc très importante pour ce domaine de résultats de la performance. La deuxième, la question de la présentation opportune des déclarations. Nous aurions dû faire une gestion spécifique, orientée sur les problèmes que la paralysie a créés et respecter tous les délais établis précédemment pour faire des ajustements sur ces délais de dépôt et de paiement, de sorte que l'on puisse mieux contrôler et pouvoir faire d'une façon plus sûre le contrôle des déclarations non déposées des contribuables qui ne respectent pas leurs obligations. Le troisième domaine où nous avons aussi eu une forte relation a été celui du paiement des impôts dans les délais. Il faut donc réviser les stratégies de recouvrement qui cherchent à rationaliser la législation et à établir de nouveaux instruments pour renforcer le recouvrement, mais aussi un programme d'encouragement au civisme fiscal collectif. Cette gestion du paiement des impôts est devenue dramatique lors de cette période de crise. Et le quatrième domaine dont j'aimerais parler est la gestion efficace des recettes. Elle n'a jamais été aussi nécessaire et importante pour la préparation de l'institution fiscale à une gestion 24 heures sur 24 de la réalisation des recettes. On cherche à comprendre, à quantifier et à préciser les effets de la crise pour mesurer et traduire l'impact sur les cotisations en faisant des ajustements en permanence et en secondant le gouvernement sur les impacts de son flux financier, sur les révisions nécessaires pour réorganiser le budget. L'institution fiscale joue un rôle majeur dans les ajustements fiscaux nécessaires à cause des effets que la crise provoque sur les finances publiques. Alors, il y a un lien très étroit avec ces quatre domaines de résultats de la performance. Mais il y a certainement des relations avec tous les autres domaines.
Monsieur le secrétaire, merci. Voulez-vous faire d'autres commentaires ?
Oui, je voudrais transmettre un message d'optimisme au milieu de ce triste scénario dû à cette crise sanitaire mondiale que nous traversons en ce moment. Parler des mesures prises au sein de la recette fédérale du Brésil et de tout ce travail que nous développons d'une façon très spéciale avec toutes nos équipes, nos fonctionnaires, nos vacataires qui ne ménagent pas leurs efforts pour accomplir leur mission et remplir leur rôle en ce moment. Certains avec un risque personnel, notamment les fonctionnaires qui ont dû poursuivre leurs activités sur place avec des contacts rapprochés lors de l'accueil des contribuables ou même dans plusieurs centres douaniers, dans les ports, aéroports et frontières. Je les considère héroïques, ces fonctionnaires. Mais tout ce travail nous permet d'être sûrs que nous sortirons plus forts de cette expérience, de cet épisode, et nous pourrons être l'une des institutions qui s'adaptera la mieux à la nouvelle réalité que le Brésil et le monde devront sûrement affronter, celle que l'on appelle la nouvelle normalité. J'aimerais souligner qu'il est important que toutes les institutions fiscales soient disposées à se soumettre à une évaluation comme le TADAT. Je peux vous assurer que pour l'institution fiscale brésilienne, les avantages institutionnels issus de l'évaluation TADAT ont été beaucoup plus grands que ceux à quoi on s'attendait. Ils ont dépassé le simple diagnostic de notre système fiscal. Tous ces gains dont je vous parle peuvent éveiller les personnes et susciter en vous tous un esprit de collaboration et d'intégration et d'efficacité vis-à-vis de l'avenir. Le TADAT nous aide vraiment dans ce contexte de pandémie. Et il va être encore plus utile pour orienter la définition de notre plan stratégique des prochaines années et les réformes que nous souhaitons entreprendre. Nous devrons certainement nous adapter à la nouvelle normalité. Il est clair que nous avons conscience que nous, en tant qu'institution fiscale, nous pouvons et nous devons faire la différence dans la vie des gens et des contribuables et de la société à part entière. Je termine avec une phrase qui traduit tout cet optimisme. L'impossible ne dépend que de la façon dont on fait les choses.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire.
Merci, Valéria. J'aimerais aussi remercier le secrétariat du TADAT au nom de monsieur Justin Zach pour l'invitation et l'occasion d'avoir participé à cette interview du podcast.
Le TADAT est un engagement de collaboration des partenaires suivants. L'Union européenne, l'Allemagne, le Fonds monétaire international, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.